BFM Bourse, le club de la bourse.
Alors notez que pendant que la France s'écharpe, que les Français s'écharpent, que la France inquiète le marché, le monde lui continue d'avancer et l'IA de redessiner les rapports de force, on le voit d'ailleurs à travers Adobe. Adobe, c'est pas une petite valeur, c'est un gros titre de Wall Street. Et bien Adobe a publié ses résultats et ses perspectives boostées par l'IA. Le titre Adobe à Wall Street gagne à l'instant 16% grâce à l'IA. Voilà, une nouvelle fois l'IA. On en parlait aussi avec John Plassard tout à l'heure dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Ça y est, il est en ligne sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans USA Today, notre séquence USA Today avec John chaque jour. Raphaël Thuan nous rejoint. Bonjour Raphaël.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, ravi de vous retrouver, directeur des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Cyril Collet aussi nous accompagne en fil rouge. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Directeur de la gestion quantitative action de CPRM. Compliquée cette séance, compliquée cette semaine. On perd 6,5% cette semaine sur le CAC. Depuis le début de l'année, le CAC désormais est négatif. Et ce soir, moins 3%. Bon, Raphaël, comment est-ce que vous... Ça fait 5 jours maintenant que la dissolution a été annoncée. On a le sentiment qu'elle n'est toujours pas digérée sur le marché. On est sur un excès de marché. Au contraire, c'est très très rationnel de voir le marché réagir comme ça. Comment est-ce que vous regardez les choses?
Ouais, c'est pas un mouvement anodin là. On peut parler d'un mouvement de marché qui fera date, qui est significatif. Beaucoup d'incertitudes évidemment vis-à-vis de ces élections, incertitudes complètes. Souvent on utilise le mot incertitude, il est un peu galvaudé, on le passe à toutes les sauces. Là pour le coup, je pense qu'on peut parler qui sera élu, première incertitude. Quel programme économique, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de visibilité limpide vis-à-vis des programmes de chacun des partis. Et puis une dernière incertitude, c'est comment les marchés réagiront. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, au moment du Brexit ou de l'élection de Donald Trump, on n'avait pas vraiment bien anticipé les réactions de marché. On verra cette fois, mais encore une fois, tout ça rajoute de l'inquiétude. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc on a des mouvements qui sont effectivement très significatifs. Vous parliez du CAC qui efface ses gains en quelques jours. Évidemment, on va évidemment parler des taux d'intérêt, cette dynamique des taux d'intérêt, de l'écartement entre les taux français et les autres pays, cette dynamique de la soutenabilité de la dette, ça redevient des thématiques principales et probablement qu'on va en parler bien au-delà des élections.
Alors, je vois par exemple sur les réseaux des commentateurs plus politiques économiques qui disent « Ah, les marchés font pression sur le résultat de l'élection. Ouais, » Les marchés font pression, hein, ils donnent un prix au risque. Enfin, comment est-ce que vous répondez, comment est-ce que vous peut-être que le marché fait pression d'ailleurs. Enfin, comment est-ce que vous regardez? Je vous pose la question parce qu'on est BFM Business, on est là pour apporter de la science dans tout ça. Comment est-ce qu'on peut effectivement apporter l'analyse à ceux qui pensent que le marché fait pression? Et peut-être le marché fait-il pression d'ailleurs, Raphaël?
Alors il fait pression probablement, mais il ne le fait pas de manière coordonnée. Évidemment, il n'y a pas un monsieur marché qui décide des mouvements. En revanche, on peut imaginer que ces mouvements de marché sont observés par les intervenants politique, économique. Évidemment, cette thématique de la soutenabilité des déficits sera, en particulier à cause des mouvements de marché, au centre des débats. Qu'en est-il des différents programmes économiques proposés? Dans quelles mesures sont-ils applicables, réalistes et soutenables vis-à-vis des dynamiques de taux d'intérêt? Quel est l'appétit du marché pour absorber ces futurs déficits? Si on a plus de déficits à financer, plus d'offres d'obligations gouvernementales, quelle sera la demande face à cela? Évidemment, cette thématique, elle s'impose d'elle-même. Et on peut imaginer qu'effectivement, de tous bords politiques, on observe de près ce que font les marchés et on ajustera aussi le discours en fonction de la réception des marchés.
Ah, vous croyez?
On peut l'imaginer.
On est dans une période où on peut aussi servir du marché en disant « Regardez le marché qui essaie d'influencer votre vote ». Enfin, on est dans l'époque de Donald Trump. On n'est pas chez les Américains, mais quand même, on est dans cette époque-là. Bon. Comment est-ce que vous regardez ça, les mouvements de marché? Même question qu'à Raphaël, il y a un instant, après 5 jours. 5 jours sont passés depuis l'annonce de la dissolution et on en est encore là, moins 3% 5 jours plus tard sur le CAC 40 à l'instant. Ce n'est pas parti pour s'améliorer puisqu'on accélère encore à la baisse à l'approche de la clôture. Cyril?
Je pense effectivement que l'élément significatif, c'est la hausse du taux 10 ans, lié à l'incertitude. Alors oui, l'endettement et ainsi de suite, ça revient au goût du jour, mais c'est quelque part la prime de risque pays qu'on est en train de payer sur la France. Les grandes capitalisations françaises, Sanofi, LVMH, CEO, tout Total, font la plupart de leur chiffre d'affaires à l'étranger, donc elles ne sont pas concernées par ça, entre guillemets. Mais bien entendu, tout le reste de l'économie française se finance par rapport au taux 10 ans. Et c'est ça qu'on joue, c'est-à-dire que le taux 10 ans monte, parce qu'on pense qu'effectivement, il faudra financer les programmes ou pas. Et donc cette incertitude-là va faire peser sur les taux plutôt une pousser à la hausse. Et si on monte les taux, bah, tout le monde surfinance beaucoup plus cher.
Parce que les taux auxquels empruntent les entreprises dépendent du taux de l'État.
Alors, ça dépend des fois, mais souvent, oui. En attendant, ce qu'on fait, c'est que quand on analyse le risque d'une entreprise, on regarde le risque du pays. Et souvent, on ajoute ce qu'on appelle un spread, un écart qui permet de dire, si je mets plus 20 BP, bah, c'est un petit peu risqué. Si je mets plus 200 BP, c'est plus risqué.
Point de base.
Vous avez même des entreprises nationales qui arrivent à emprunter sur le long terme, peu ou prou, au niveau des taux de l'État. Mais, bien entendu, si le taux global monte, ça pousse les modes de financement pour tout le monde à la hausse. Et c'est ça la vraie anxiété. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'anxiété politique. Ce que je veux dire, c'est que c'est la conséquence économique que le marché est en train d'intégrer. Il ne l'a pas trop fait lundi, il était plutôt calme, même si les taux ont commencé à bouger assez vite. Et là, aujourd'hui, il est en train de dire, bah oui, il faut que j'intègre ce mode de refinancement qui va être beaucoup plus douloureux pour les entreprises dans ma valorisation. Même si tout ça est dit, je pense que c'est un peu vite et je pense que c'est un peu fort, mais il y a quelque part une vraie logique à ça.
Enfin, qu'est-ce qui a changé depuis lundi? Parce que, donc on le disait, aujourd'hui on a un nouveau plus depuis 2017 sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, 80 points d'écart de taux. Qu'est-ce qui a changé? Alors depuis lundi, qu'est-ce qui a changé? On a le programme de la gauche, par exemple. Bon, ça y est, une gauche unie, effectivement, et un programme dont le marché prend aussi connaissance. Est-ce que c'est ça qui peut participer à faire basculer davantage encore le marché? Enfin, qu'est-ce qui a changé pour expliquer le mouvement du jour? Ou c'est des phénomènes techniques aussi? Pour vraiment essayer de comprendre et d'apporter de la science là-dedans, ouais. Raphaël.
Il y a clairement une combinaison de facteurs. Évidemment, on commence petit à petit, chaque jour passant, à y voir un peu plus clair. Des alliances se font, les programmes économiques s'affinent. Et effectivement, le marché est en train d'intégrer cette idée que oui, il est possible que demain, un parti de l'opposition qui soit moins orthodoxe en termes budgétaires puisse accéder au pouvoir. Ça, c'est une perspective qui est neuve. On ne parlait pas de ça il y a une semaine. C'est très brusque, très brutal. Le marché est surpris, n'avait pas anticipé. Et c'est une perspective aussi qui est neuve historiquement. Dans notre histoire, on a eu assez peu d'événements de la sorte qui ont suscité tant d'angoisse vis-à-vis de ces dynamiques budgétaires. Alors, il y en a eu chez nos voisins. On se souvient, et ça a été peut-être l'inauguration finalement du phénomène d'abord de la Grande-Bretagne avec le mini-budget de Liz Truss qui a fini assez mal pour elle, vu que les marchés, dirons-nous, l'ont forcé à la sortie.
Et la Grande-Bretagne n'est pas un petit pays émergent, hein, voilà. On parle de la Grande-Bretagne. Ouais.
Et finalement, les circonstances avaient des similitudes. Un nouveau gouvernement qui est prêt à laisser filer les déficits dans le cadre d'un nouveau budget et des marchés qui réagissent très fortement. Ça a été une surprise en ce temps-là, mais ça a été finalement un premier signe. On a eu effectivement l'Italie, à peu près sur une période équivalente, où avec un gouvernement de droite et d'extrême droite, on a vu une inquiétude budgétaire se manifester. Donc voilà, on commence à avoir des scénarios qui se répètent, une thématique de la soutenabilité de la dette qui revient assez systématiquement maintenant. La France, c'est aujourd'hui. Peut-être demain, on parlera des États-Unis, où finalement, le même genre de débat va se poser dans les semaines qui viennent. On a deux candidats qui ont l'air très dépensiers, qui ont l'air tout à fait dans la capacité de laisser filer la dette. Est-ce qu'on peut avoir une crise de la dette vis-à-vis de la réaction de ces marchés à ces grandes annonces budgétaires? À voir. En tout cas, c'est ça le risque qui inquiète le marché. Et les facteurs de stress tels que les écartements de taux d'intérêt sont clairement des indicateurs de ce risque.
Cyril?
Oui, alors, si on a une crise de la dette, c'est juste le début de ce qu'on peut voir au niveau des marchés actions, mais je suis évidemment complètement d'accord. On est passé d'un monde en quelques mois où on nous annonçait 6 baisses de taux de la Fed, 3 baisses de taux de la BCE, finalement, les taux le montent. C'est un changement radical pour l'instant.
Et Wall Street a bien encaissé, Wall Street est sur des records.
Oui, mais puis ils sont pas encore concernés pour l'instant. Ça arrive tout doucement de leur côté. Parce que finalement, sur les dernières années, l'État qui a le plus fait monter sa dette, c'est les États-Unis, qui a le plus dépensé, entre guillemets, à tout va. Alors, ils partaient d'un niveau d'endettement plus faible.
Ils ont une super croissance,
ils ont une devise que tout le monde aime bien. Ok, mais en attendant, au niveau de l'endettement et au niveau de l'endettement public, on est quand même sur des niveaux partout qui sont très très élevés. Et la vraie condition, c'est comment on se refinance. Si à un moment donné, plus personne ne nous prête, comment on fait? Et donc là, comme je disais juste avant, en dehors de la vitesse de cette semaine qui est effectivement très importante sur le mouvement de taux, ce qui est fort, c'est le changement de paradigme. Tout le monde allait vers, oui, on va payer la dette moins cher, regardons comment on peut investir, qu'est-ce qui a besoin de capitaux, et ainsi de suite. Là, c'est l'inverse. On va maintenant regarder les entreprises qui n'ont pas besoin de capitaux. Même si les grandes entreprises, elles se financent en moyenne à 5-7 ans, un pic autour de 5 ans pour commencer. Donc, elles, c'est pas très grave. Mais les petites caps, les small caps, toutes les petites valeurs, pardon, elles vont avoir un impact beaucoup plus rapide là-dessus.
C'est terrible, les small caps, les petites valeurs,
on espérait leur réveil, commencer
à se réveiller, mais sur la semaine, moins 10%. Allez, hop.
Parce que c'est le mode de financement qui est en jeu de l'ensemble de l'économie, mais aussi de l'État.
Mais il y avait un phénomène là, tout au long de ces derniers trimestres, de rachat des petites valeurs par le private equity. Est-ce que le private equity va arrêter de racheter les valeurs françaises dans la mesure où il y a ce risque pays qui peut-être est en train d'émerger? Est-ce que, par exemple, on peut avoir ce type de conséquences, effectivement, moindre rachat à venir d'entreprises cotées par le private equity parce que, effectivement, se pose le problème de la dette et puis de la soutenabilité, quoi?
Au niveau du private equity, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à investir ces 5-7 dernières années, donc ça a aidé à augmenter le nombre d'opérations. Mais encore une fois, si vous rachetez une entreprise aujourd'hui avec un besoin de financement assez faible, ça ne va pas changer votre vie. Si c'est de la restructuration ou de l'ajustement industriel, si c'est un leverage buyout pour parler français, si vous avez besoin de beaucoup de dettes, ça va être différent.
Oui, sur les small caps qui soufflent à moins 10% sur la semaine, est-ce qu'on peut effectivement imaginer que le monde du private equity aussi pose un regard nouveau sur les entreprises françaises à l'avenir avec ce qui se passe?
Alors c'est une bonne question. Effectivement, l'activité du private equity sur le segment small cap, il est très important et à la fois important pour les acteurs de private equity comme pour les acteurs du small cap. Et effectivement, ce small cap, il est très dépendant de ce régime de taux d'intérêt. Donc évidemment, si on est dans un régime de stress sur les taux d'intérêt, un régime de pontification de la courbe où on verrait par exemple les taux longs repartir à la hausse sur cette dynamique de taux d'intérêt et de déficit, alors on pourrait imaginer en filigrane effectivement une sous-performance de ces small caps, des difficultés de financement. Les small caps, les petites valeurs, pardon, sont très sensibles à ces conditions de financement, difficultés de financement d'ailleurs aussi pour d'autres acteurs. Et au final, on pourrait voir effectivement un ralentissement de cette tendance. Bon, là, on extrapole un petit peu, le phénomène est encore neuf, mais on peut effectivement raisonner à plusieurs coups d'avance.
Cyril, et puis dans un instant, on regarde ce que nous offre le marché, c'est compliqué là ce soir.
Non, mais je pense que c'est vraiment important, ça. Au-delà, effectivement, du rationnel, ça monte ou ça baisse, je pense qu'à l'intérieur du marché, la façon de sélectionner les titres, la façon d'investir dans les entreprises vient de radicalement changer. On passe d'un investissement où on pouvait avoir besoin de dette et il n'y avait pas de souci par rapport à ça, à on investit uniquement dans des entreprises qui sont financées pour 5 à 7 ans. C'est pas les mêmes bilans, c'est pas le même niveau de capitalisation, et oui, c'est plutôt favorable aux grosses capis qui vont avoir beaucoup de ventes, on va dire, à l'international, qui ne vont pas uniquement être concernées par le marché français.
Sur la semaine, les small caps à Paris, en France, reculent de 10%. C'est plus que les small caps européennes. Et on entre dans la 17h20, dans la dernière ligne droite, plus qu'un quart d'heure avant la clôture. On accélère vers cette ligne droite, vers cette clôture. Hélas, dans le rouge, ouais, c'est une moto qui descend la pente là ce soir. Moins 2,8% notre CAC 40 sous les 7500 points. Effectivement, on a enfoncé tout au long de la semaine plein de paliers techniques très très importants. Et nos analystes techniques, André Atouigny aujourd'hui, mais hier Romain Dobry, nous disait on a encore plusieurs paliers techniques à la baisse à franchir, sans doute avant d'avoir terminé cette purge sur les marchés. En tout cas, l'avenir dépendra évidemment du résultat des législatives ici en France. On va revenir sur l'OAT dans un instant. Du côté des valeurs, il n'y a aucun rescapé sur le CAC 40. Les 40 valeurs sont en repli désormais, notamment celles qui avaient le plus progressé. On pense par exemple à Thalès qui recule aujourd'hui de 7% à la Bourse de Paris. C'est pas tous les jours que Thalès a lanterne rouge, aujourd'hui c'est le cas. On a aussi parmi les replis marquants du jour, à nouveau le secteur bancaire. Crédit Agricole perd à nouveau 4%, Société Générale perd également du terrain, moins 3%, Société Générale sur la semaine perd quasiment 15%, BNP Paribas sur la semaine perd quasiment 11%, Vinci, TF1, M6 sont également en repli, les mêmes victimes depuis l'annonce de la dissolution. Mais aujourd'hui ces valeurs sont à nouveau en repli très très marqué. Par exemple, le titre Vinci, à l'instant, est en train de reculer d'un peu plus de 2,5% supplémentaire. Semaine très compliquée pour Vinci. On continue d'en parler, bien sûr, avec Cyril Collet et Raphaël Thuin. Est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs, est-ce que ce qui se passe, le risque politique avec ce qui se passe en France pourrait déclencher... C'est une question qu'on voit aussi d'un de nos auditeurs, il s'appelle Mathieu, il nous a écrit sur le fil XBFM Bourse. Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait déclencher les baisses de taux de la BCE? Voir pourquoi pas entraîner peut-être un mouvement d'assouplissement de la Fed un peu plus prématuré, un peu plus anticipé que ce que tout le monde imaginait, parce qu'il y a ce retour du risque politique et vous parlez d'une possible crise des dettes, je ne sais pas si ça se manifeste. Est-ce que là on a un déclencheur de quelque chose pour les banques centrales aussi?
Elles sont quand même dans des politiques un peu différentes. Je pense qu'elles sont dans des politiques de moyen terme. Elles ont bien géré les trois dernières années. Et on ne reparle pas de toutes les baisses de taux qui ne sont pas arrivées, justement parce qu'elles font très attention. De notre côté, c'est plutôt l'inflation qui est sous revue. Aux États-Unis, c'est plutôt le marché du travail. Donc je pense que c'est quand même même un peu tôt pour sortir
oui.
le super.
D'autant qu'en valeur absolue, en valeur absolue, 10 ans français, il n'est pas du tout à l'incendie. Hein. Il est à 3,12. C'est l'écart de taux avec l'Allemagne qui pose problème. Mais là, à 3,12, on est très très loin du niveau d'il y a quelques années pendant la crise des dettes. Hein. On a de la marge là-dessus.
Et puis si on parlait juste avant, pardon, mais on parlait juste avant des dépenses un peu festives des États ces dernières années, si la BCE intervient à chaque fois qu'il y a un État qui est un peu en risque, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de gendarmes. Quoi. Ça veut dire que c'est la porte ouverte.
Oui. Est-ce que, toujours dans la perspective des législatives, parce que les marchés européens se focalisent vraiment sur la France là, en cette fin de semaine, est-ce que, s'il n'y a pas de majorité absolue à l'issue de ces législatives, ce qui est probable d'ailleurs, si on va vers une paralysie parlementaire, on peut se dire que ce serait un moindre mal, ou on peut même pas se dire ça, en l'occurrence Raphaël ?
Alors c'est une bonne question, tout ça c'est des questions très neuves. On se souvient par exemple qu'aux États-Unis, ça a été souvent vu positivement par le marché. Une espèce de statu quo qui permettait à l'économie de continuer sur sa dynamique sans qu'il y ait des interventions politiques trop susceptibles de contrer la croissance ou de nourrir l'inflation. Et donc, si on prend l'exemple des États-Unis...
On parle du point de vue des marchés, hein, toujours.
Voilà, du point de vue des marchés, sur le statu quo peut être vu comme une issue favorable. Aujourd'hui, le marché, il est en train de prendre peur d'une politique très agressive en termes budgétaires qui serait susceptible de faire creuser les déficits, la dette de la France. Un statu quo qui serait une façon de laisser les choses en l'état, de ce point de vue-là, serait probablement un signe de soulagement d'une façon ou d'une autre.
Mais en même temps, Gilles Mouet, qui est le chef économiste d'AXA, nous disait hier, s'il y a une paralysie parlementaire, ça veut dire qu'il y aura plus, de toute façon plus de réformes. En tout cas, pas de réforme qui aille dans le sens de ce que le marché attend. Et donc, sans doute, si on va vers l'immobilisme, une dégradation, de nouvelles dégradations à venir de la note française.
Oui, mais pas besoin de financement supplémentaire non plus. Enfin, il y a effectivement le pour et le contre. C'est-à-dire que on a vu juste avant le Front populaire et les propositions qui sont faites un peu rapides, parce que c'est dans la semaine. Mais ça, en face de ça, il faut mettre d'énormes moyens de financement. Donc si jamais il y a statu quo à l'Assemblée, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mouvement finalement politique fort, moins de réformes certes, mais pas de besoin de financement supplémentaire. Or, c'est bien une des angoisses aujourd'hui, c'est-à-dire que la France doit appeler beaucoup plus l'épargne, on va dire, internationale pour se financer.
C'est vrai que du point de vue des marchés, il faut reprendre un petit peu le contexte avant cette séquence électorale. La France était déjà très fébrile vis-à-vis de sa notation, vis-à-vis de ses déficits. Donc, en termes de déficit, la France est proche de 5% de déficit. C'est le deuxième plus mauvais élève de la zone euro, derrière la Slovaquie. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. En termes de dette ramenée à son PIB, là aussi, on est sur des chiffres très élevés. Parmi les plus mauvais élèves, à 110%, on a eu la dégradation de la note de la France il y a 10 jours. Donc, même avant les élections, le sujet était un sujet d'actualité, un sujet d'inquiétude pour les marchés. Ça ne s'était pas vraiment encore manifesté en termes de mouvement de marché, mais c'était un sujet qui était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, ce sujet, il prend de l'ampleur. Et effectivement, les perspectives d'avoir une politique qui renchérirait cette dynamique négative en termes de déficit et effectivement...
Alors, il y a des secteurs qui trinquent littéralement en bourse. Est-ce que vous voyez néanmoins, justement, à force de voir le marché baisser, des points d'entrée, quoi ? Enfin, oui, est-ce que... Enfin, on est une émission d'investissement, hein, BFM Bourse, on se projette dans l'avenir, et c'est votre métier aussi auprès de vos clients. Est-ce que vous êtes prêt à commencer à leur dire, vous avez peut-être déjà commencé à le faire, qu'on est sur des points d'entrée, là, sur certains fragments de marché, Raphaël ?
Alors ça, c'est une très bonne façon de poser la chose. Effectivement, beaucoup de risques, beaucoup de sentiments d'inquiétude. Ça va être aussi des opportunités, il va y avoir des choses à faire. On est d'avis aujourd'hui que c'est plutôt le moment d'appuyer sur pause, d'être plutôt sur la défensive, plutôt sur la prudence, garder des liquidités sur le côté. On est sur le début d'une histoire qui est très incertaine.
Ça, ce que vous venez de dire, c'est presque le plus important depuis le début de ce club. Parce que, voilà, bien sûr, il y a l'analyse et puis il y a ce qu'on fait. Et ce qu'on fait se traduit la vision qu'on a. Vous vous dites, on se met de côté, quoi.
Voilà. Il est sûrement un peu tôt pour redéployer. Plutôt le moment d'attendre un petit peu, d'avoir plus de clarté sur les événements. Et puis, on n'est pas encore sur des niveaux de détresse. Aujourd'hui, on a vu un mouvement qui est très significatif sur le spread. Mais vous regardez les taux souverains. Ils n'ont pas vraiment bougé sur la semaine.
On est à 3,11. Sur le 10 ans français, c'est loin d'être la cata. On est au même niveau qu'avant la dissolution, 3,11.
Exactement. Donc, pas vraiment de niveau sur les taux d'intérêt en absolu. En relatif, là, oui. Mais même en relatif vis-à-vis de l'Allemagne, on est à 80 points de base. Ça fait plus 30 points de base comparé à il y a une semaine. C'est beaucoup en relatif. Mais vous prenez, par exemple, d'autres épisodes, type, on parlait de la Grande-Bretagne, où le spread a explosé. On a parlé de 90 points de base. Je ne parle pas de l'Italie, on était à plus de 100 points de base. On n'est pas encore sur des niveaux de détresse absolue. Sur les actions, évidemment, c'est pas brillant, mais on est aujourd'hui à 0% de performance sur l'année. C'est pas catastrophique. À un moment où le marché avait besoin d'une consolidation, besoin d'une respiration, on voit pas encore d'opportunités immanquables. Après, il va falloir ouvrir les yeux. se concentrer sur le fondamental. On va revenir un petit peu aux fondamentaux de l'investissement. Est-ce que l'entreprise que j'ai dans mon portefeuille est affectée par cette dynamique? Sa capacité à générer du profit sera-t-elle mise à mal si tel ou tel scénario? Oui. Et si ce n'est pas le cas et qu'on a des cours très décotés, alors oui, redéployer fera
ça. Thalès ce soir, -6,5, je ne sais pas, mais les commandes, ça dépend du gouvernement. Pour le coup, ce n'est pas le domaine réservé. Enfin, je ne sais pas, mais il peut y avoir un impact des législatives aussi sur les commandes. Enfin, Thalès ce soir est à -6,5. Alors, le titre partait très haut. Il faut voir aussi les prises de bénéfices. Bien sûr, il faut tout relativiser sur le marché. Le marché, il est toujours complet. Voilà, il ne faut pas le prendre par un seul petit bout. Mais quand même.
Enfin, encore une fois, c'est très centré sur la France. Je ne voudrais pas faire l'investisseur action internationale, mais aujourd'hui, la plupart des portefeuilles sont à minima euro, voire européen, voire internationaux. Et pour l'instant, c'est vraiment un épiphénomène français. Mmh. Alors, ce n'est pas pour ça que si jamais il y a des opportunités de par une baisse de la valorisation de titres français à l'intérieur d'un secteur européen, bien entendu qu'on va regarder ça. Mais je suis assez d'accord. Je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt. Je pense fondamentalement qu'au-delà du mouvement absolu, et c'est bien de rester de côté, c'est beaucoup trop tôt pour revenir. Il y a une vision, c'est est-ce que mon entreprise a besoin de financement ou pas. C'était plus forcément le critère ces derniers temps. Ça va redevenir le critère de sélection, un des critères principaux, mais c'est vraiment trop tôt pour se dire qu'il faut remettre de la France aujourd'hui.
Oui. La France qui d'ailleurs reporte une émission, la Banque publique de développement reporte l'émission d'un green bond qui était prévu aujourd'hui. Voilà, autant attendre que les choses se détendent effectivement.